Après avoir vaincu le dernier roi wisigoth en 711 sur le Guadalete, soumis Saragosse en 714, les Sarrasins s'emparent de Narbonne et de la Septimanie. Ils montent jusqu'à Poitiers en 732, où ils furent repoussés, inutile de le rappeler, par Charles Martel. Dès le début du 8e siècle, les Sarrasins venus d'Espagne envahirent les lieux. Refoulés par Charles Martel, ils se replient vers les Pyrénées et brûlent Saint-Lizier en 736. Il faut savoir que les Pyrénées ne subirent pas l'occupation musulmane qui s'arrêta à leurs pieds. Elle provoqua cependant, comme pour les précédentes invasions, un reflux des populations vers les hautes vallées. Ce refus déclencha une surpopulation en altitude. En effet, les habitants de la plaine refluèrent en masse devant la menace des hordes d'envahisseurs. La plaine et ses bourgs se transformèrent alors en véritables déserts. Les invasions sarrasines sont restées présentes dans l'imaginaire des populations du Couserans. C'est ainsi qu'elles accordent une grande place à Charlemagne, qui libéra les vallées de l'occupation musulmane et en confia la garde aux populations de la frontière comme à Saixe. Après Roncevaux, l'empereur se serait arrêté à Saixe, aurait fait bâtir le château de la garde et octroyé à ses habitants des droits sur les forêts et les montagnes. Les nombreuses procédures qui opposèrent les Saixois au roi François Ier, qui voulait aliéner leurs forêts, se référèrent à ces privilèges octroyés par Charlemagne. Aucune trace historique ne subsiste de leur présence dans le nord des Pyrénées. Les spécialistes estiment qu'il n'existe en fait aucune preuve de l'occupation musulmane. Certes, on peut affirmer que des razzias furent effectuées à partir de l'est et de l'ouest, mais probablement pas du sud. Cependant, leur existence est à l'origine de tout un fond de légende. Bref, une véritable psychose s'installa, engendrant un réel climat d'insécurité. Après avoir créé le royaume d'Aquitaine en 781, en reprenant les limites de l'ancien royaume wisigoth du 5e siècle, Charlemagne put renforcer la surveillance de la frontière espagnole, ainsi que celle des populations locales. Gageons qu'il ne pouvait oublier les récentes révoltes des Aquitains et des Vascons. Pour la petite histoire, ce royaume d'Aquitaine eut une vie brève, vu qu'il fut victime des luttes de succession. Le véritable pouvoir fut en fait récupéré par les comtes. Comme on peut le constater, le haut Couserans frontalier avec l'Espagne eut à subir les passages militaires, les attaques de troupes plus ou moins régulières. Le danger venant du versant sud des Pyrénées amena les rois francs à surveiller étroitement les systèmes de communication que constituaient les ports frontaliers. Saixe, se trouvant dans le domaine royal, fut naturellement chargé de cette surveillance et fut inclus dans ce système de défense organisé par le royaume français. Il devenait donc impératif d'organiser la surveillance de la zone frontière en impliquant les communautés des lieux. Ces dernières devant entretenir les hommes d'armes et assurer la construction et l'entretien des bâtiments fortifiés. Les gens de Saixe contribuèrent largement à cette fonction de surveillance. Il faut dire qu'ils furent même en temps de paix soumis aux attaques de hordes de brigands de soldats en rupture de solde, attirés par la richesse des vallées du Haut-Salat. Les doléances des consuls de Saixe énumèrent longuement le nombre de bêtes enlevées, de maisons rasées et pillées par les habitants d'Espagne, ou plutôt de Catalogne du Haut-Pallars. Du port de Martera au port de Salo et d'Ola, les Saixois exerçaient donc une surveillance sévère, allant jusqu'à organiser des guet-apens. L'escarpement des lieux met en exergue la robustesse de nos montagnards soumis en permanence au risque de chute. Comme dans tout le Couserans, la région du Haut-Salat fut, dès le début de la féodalité, hérissée de châteaux forts plus ou moins importants. Beaucoup d'entre eux furent des substructions de postes fortifiés romains. La plupart tombèrent en ruine, le plus souvent démolies par les bombardes ou tout simplement sous la pioche des démolisseurs, voire sous l'action destructrice des aléas climatiques ou d'une végétation luxuriante. Nous prendrons un exemple, les ruines du château de Mirabat. Les travaux d'archéologie menés actuellement par une équipe particulièrement dynamique, nous y reviendrons un jour, et efficace, nous permettent d'espérer des découvertes fort intéressantes. Le pic du Mirabat constitue en cette saison une randonnée fort intéressante. La montée depuis Mounetou, facilitée par un sentier remarquablement conservé, permet d'apprécier de magnifiques sous-bois escarpés. Au fur et à mesure que l'on s'élève, le panorama prend une dimension à couper le souffle. Le large chemin taillé à même le roc, fortifié par de magnifiques murets, serpente au-dessus des abîmes. Toute la montagne couzoranaise s'étale devant le randonneur émerveillé, tandis que le Mont Valier, étonnamment proche, s'impose par sa fière stature. L'approche par Azars, remarquablement élégante, permet de cheminer sur un sentier exposé au soleil face à un cadre grandiose. Perché à 1272 mètres d'altitude, les ruines du Mirabat dominent le château de la Garde, dont les vestiges sont encore imposants. Le château de la Garde aurait été construit selon la légende par Charlemagne. Il aurait, si l'on en croit les historiens locaux, abrité une garnison jusqu'au XVIe siècle. Une charte datant de 1540 nous apprend d'ailleurs qu'il aurait été abandonné. Son entretien d'une valeur de 3000 livres par an constituait une charge trop lourde pour le pouvoir royal. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur les hauteurs de Mirabat après cette petite digression. Du sommet, véritable belvédère, les cirques, les plissements et les arêtes se dévoilent dans leur complexité morphologique. Les longues vallées parsemées de quelques hameaux perchés pénètrent dans l'épaisseur des massifs pour aller mourir au pied des ports frontaliers. Les ruines du château de Mirabat, témoins d'une riche histoire, laissent deviner l'importance stratégique du site. Perché à 1272 mètres d'altitude, ce château aurait été construit, selon la tradition locale, sous l'ordre de Charlemagne. De cet endroit, la clarté de fagots embrassés constituait des signaux annonçant à la tour du Castillet de la région et à la citadelle de Saint-Lizier l'arrivée des Vascons par les portes martérates de Salo et d'Ola. Attention, j'ai parlé de Vascons et non de musulmans. L'enceinte du château du Mirabat représentait à peu près 200 mètres carrés, entourée d'une enceinte de 1 mètre d'épaisseur. Dans cet espace, plongeant de toutes parts sur des précipices impressionnants, guetteurs et soldats se massaient pendant de longues périodes. Selon des spécialistes, l'aménagement intérieur était constitué d'une tour de feu, les couverts où vivaient les hommes, les mulets porteurs de charges. L'eau indispensable était recueillie dans des citernes. Lors de la retraite, les morts tentèrent de regagner l'Espagne en passant par les Pyrénées, nous l'avons vu tout à l'heure. À cette occasion, de violentes algarades les auraient opposés aux défenseurs des châteaux de la Garde et de Mirabat. Selon la tradition orale, des paysans auraient trouvé, lors des défrichements, des fragments d'armes anciennes pouvant confirmer ces batailles. Les quelques ruines attirant les randonneurs en quête de beaux paysages et d'archéologie restent en fait encore bien muettes. Les pans de murs ayant résisté aux ravages du temps dominent la Combe de Politz, combe des gentils, précipice de plus de 150 mètres de profondeur. Appelé longtemps le château du roi, cet ancien édifice domine le château de la Garde avec lequel il aurait communiqué jadis par un souterrain. Toujours prudence, il s'agit de tradition orale. Cette hypothèse, liée à la présence d'une grotte toute proche, est bien contestée. Cependant, les nombreuses légendes mentionnant le maintien des communications entre les deux forteresses, malgré d'effroyables combats et de douloureux sièges, ne font qu'attiser le mystère. Bonne soirée, chers auditeurs.